Jean-François Lisée.
On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Jean-François, que s'est-il passé au Québec? Parce qu'il y a quelques mois, c'était épouvantable de recevoir plus de 50 000 immigrants. Là, on ressemblerait à la Louisiane. Et là, soudainement, ben non, il n'y a aucun problème. On peut en recevoir 60 000, aucun problème. Que s'est-il passé, Jean-François?
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Là, il faudrait pouvoir avoir peut-être mettre le cerveau de M. Legault dans une machine à résonance magnétique pour essayer de voir s'il y a eu une excroissance ou une décroissance. Mais il y a quand même une chose importante qui s'est passée hier, c'est qu'ils ont appliqué le programme du Parti québécois, du moins une partie du programme que je mettais de l'avant depuis 2016, c'est-à-dire de réclamer une connaissance minimale du français au point d'entrée. Ça, c'était mon grand combat. Et la première chose que je dois dire, c'est que je suis très content que finalement le gouvernement se soit rendu à la raison. J'ose dire que moi, je dis jamais que le gouvernement recule quand il vient vers moi. Je dis qu'il avance. Alors, le gouvernement fait une avancée considérable. On aurait gagné beaucoup de temps s'il avait fait ça dès que... Moi, j'avais tout expliqué ça dans les débats à M. Legault en 2018. S'il m'avait écouté, puis il avait changé d'avis à ce moment-là, on aurait gagné 5 ans, là. On a perdu 5 ans. Bon, alors donc, là-dessus, quand même, je le félicite, qui est un petit peu lent de comprendre, mais il faut prendre les gens à leur rythme. Il faut prendre les gens à leur rythme. Alors là, c'est important, ce qui s'est passé hier. Maintenant, sur les seuils, effectivement, il dit, mais là, je me suis rendu compte que si on en prenait plus que 50 000, mais à partir du 50 000, c'est des gens qui parlent français, ben là, c'est plus un problème. C'est pas une idée qui demande un post-doctorat. Je veux dire, t'aurais pu avoir cette idée-là à la dernière campagne électorale aussi. Hein? Bon, alors ça aussi, donc c'est un peu nous prendre pour des valises de dire qu'ils viennent découvrir ça. Et spécifiquement, il a dit, c'est parce qu'on m'a dit que le fédéral nous permettait d'augmenter nos seuils seulement d'économiques. Puis comme on peut demander du français pour l'économie, non, c'était déjà dans l'entente. Je veux dire, c'est juste que tu n'avais pas pris le temps de lire l'entente avant la dernière élection. Donc, écoute, moi, dans cette première intervention, je veux dire, essentiellement, ils ont fait un pas en avant. C'est nécessaire. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Et là-dessus, je vais rester de bonne humeur. Voilà.
Et toi, aujourd'hui, Tom, dans ta chronique du Journal de Montréal, tu salues la ministre Christine Fréchette.
Oui, oui. Et parce que c'est le ton en plus du contenu, parce que je suis d'accord. Et ce qui est intéressant, je parlais à la radio anglophone de Montréal tantôt, puis je dis, écoute, c'est une bonne chose. On va dans une direction d'avoir plus de français à l'entrée. C'est moins d'entraves, c'est plus smooth. Et le monde va pouvoir embarquer. Je signale un bémol compliqué autour des universités. Mais passons là-dessus pour l'instant. C'est Fréchette qui est la nouvelle là-dedans. C'est la première fois dans un dossier à la fois émotif et contraignant et difficile parce que c'est compliqué l'immigration. On n'a qu'à regarder le petit bout de conversation que tu as eu avec Jean-François à l'instant. Ben, est-ce qu'on inclut les temporaires, les PEC, les étudiants, les machins, il y a tellement de catégories que même la discussion autour du 50, 60, 70 est largement factice parce que c'est à peu près 3 fois ça, 4 fois ça le nombre total de personnes qui séjournent et qui vont se mettre sur une voie qui pourrait conduire à leur citoyenneté. Donc, il faut prendre ça vraiment avec un petit peu de hauteur, et c'est ça qui est rafraîchissant avec Christine Fréchette. Elle maîtrise le dossier qu'elle connaît parfaitement. On a eu le chicanier en chef, Simon-Jolin Barrette, qui met le feu à partout où il passe, et on a eu Jean Boulet, avec ses propos racistes pendant la campagne électorale. Donc, c'était pas Jojo. Mais là, on a tout d'un coup, on a le tandem, et je les mets en tandem. Dubreuil, Fréchette en premier, c'est elle la ministre. Mais Dubreuil est un gars songé et qui se révèle.
Dubreuil, c'est le nouveau commissaire à la langue française.
Ben voilà. Et c'est le, c'est un gars vraiment posé, super bien informé. Moi, j'étais très préoccupé par certaines choses qu'il avait écrites par le passé, pour tout dire, mais il est en train de se révéler. Là. Ce gars-là va prendre son temps. Personne va lui mettre des lignes dans la bouche. Et la même chose avec Christine Fréchette. Si elle n'était pas d'accord avec ce qu'elle était en train de faire, elle serait passée à autre chose. Mais elle regarde le dossier, elle dit, OK, c'est quoi le point faible? C'est quoi le nerf de la guerre? Pourquoi c'est devenu tellement émotif pour les gens? Ben, c'est la question du français. Très bien. Parce qu'on parle de garder le poids politique du Québec. Puis, Richard, tu m'as fait tellement rire parce que j'avais complètement oublié cette histoire de la Louisiane. Ils sont même allés chercher Zachary et Richard pour backer le gars en pleine campagne. Je l'avais oublié, celle-là.
Ben oui, Jean-François, lorsqu'il a dit dans la campagne électorale, M. Legault, c'est épouvantable, c'est la louisianisation qui nous guette si on reçoit 50 000 immigrants. Il le savait que c'était possible de demander des plus grandes exigences en français. Donc, il allumait le feu pour strictement rien.
Ben, il le savait très bien. Il le savait. Je veux dire, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est comment, même en 2018, l'immigration était un des éléments centraux de sa plateforme électorale, mais qui connaissait pas son dossier. Et que on peut lui faire l'amitié de penser qu'il connaissait pas assez son dossier en 2022 aussi, hein, tu vois. Alors donc il le savait, il est allé, c'est vrai qu'il est allé très fort, c'était dans un congrès général de la CAQ. Même moi qui suis plutôt un pessimiste sur la langue, je trouvais que c'était exagéré de dire ce qu'il disait, tu sais. Bon, alors l'important, finalement, c'est de regarder les mesures qui sont sur la table. Bon, alors les mesures qui sont sur la table, y compris, tu sais, le conseil du patronat était très content hier. Pourquoi? Ben, c'est sûr que eux, ils veulent augmenter les seuils. Ils les veulent très très élevés. Tu sais, même Québec solidaire qui voulait 70 000, ils disent, ben finalement, il y a deux hypothèses. Il y a le statu quo à 50 000, puis ensuite il y a le 60 000, mais c'est pas un vrai 60 000 parce que avec une des options, ça monte facilement à plus que 70 000. Donc QS disait, ben là, c'est le programme de QS qui vient sur les seuils. Bon, mais il y a un très grand nombre d'assouplissements sur l'ensemble des mesures. Une fois que tu as dit ça te prend du français au point d'entrée, c'est modulé selon si tu vas travailler dans un McDonald's, tu as besoin de moins de français que si tu es en intelligence artificielle. Les parcours sont plus faciles, sont plus simples. Donc, il y a beaucoup des mesures de réforme qui étaient proposées par les uns et les autres qui ont été prises en compte. Et ça, c'est du travail très sérieux. Et ça, chapeau à Christine Fréchette pour ça.
Mais Jean-François, il n'y a pas une contradiction aussi au Québec. D'un côté, on nous dit il faut qu'il parle français, c'est important. Et de l'autre côté, dans Le Devoir, je lis aujourd'hui que les cours offerts en anglais se multiplient à HEC Montréal. Il y a de plus en plus de cours et de programmes en anglais. Et là, le porte-parole du HEC dit, mais oui, mais vous savez, l'anglais, c'est la langue des affaires.
Écoute, c'est épouvantable parce que je me souviens, dans les années 70, il y avait deux chambres de commerce à Montréal, une francophone et une anglophone. Et l'anglophone était venu dire à une commission parlementaire, vous savez, l'anglais, c'est la langue des affaires. Fait qu'essayez pas de nous faire parler en français. Et là, on est en 2023 et le directeur des études à HEC, il dit ça.
Ben oui.
C'est, je trouve que, alors moi j'ai tweeté, mais j'ai dit dans ce cas-là, pourquoi donner des cours en français au HEC? Donner tous les cours en anglais. Oui. Ça, c'est une régression. Là.
Ben, qu'est-ce que t'en penses, Tom, de ça?
Ben, en fait, il fallait être aux assises de l'ACFAS dernièrement parce que c'est Michel Leblanc. Parce que la version anglaise dont parlait Jean-François, ça s'appelait The Montreal Board of Trade. Et il y avait la Chambre de commerce de Montréal, anglophone et francophone, comme dit si bien Jean-François. Ils ont été fusionnés. Et la version fusionnée, maintenant, la personne en charge, c'est Michel Leblanc. Et il était présent dans le même atelier que moi. Et lui, carrément, il a dit, soit arrêtons de niaiser avec la rondelle, là. L'anglais, c'est la langue des affaires. Donc, il y a rien de choquant que le HEC veuille s'assurer que les gens puissent avoir accès à ça. Parce qu'ils n'oublient pas qu'ils sont en concurrence. Il y a le Molson School à Concordia, qui accueille énormément de francophones, parce qu'ils se disent, ben, je vais travailler en affaires, je vais apprendre un meilleur anglais. McGill, il y a le des hôtels School of Business. Donc, les deux, en fait, sont en train d'attirer énormément de francophones de premier ordre, tout comme les cégeps anglophones attiraient. Et c'était pas un dernier de classe qui s'essayait de faire son cégep en anglais. C'était un premier de classe. Et c'était la même chose dans les écoles de business. Donc, HEC a aussi un comportement corporatiste, disant, il faut que je remplisse mes bancs d'école, puis les gens qui disent qu'ils doivent sortir quand même avec une bonne connaissance de l'anglais, mais ils peuvent l'avoir ici aussi.
Mais il y a deux choses différentes, Tom. Il y a avoir une bonne connaissance de l'anglais, ça c'est sûr. Quand tu vas à HEC, tu dois sortir en pouvant parler français et anglais en affaires. Mais là, la question, c'est que HEC donne de plus en plus de cours et de formations en anglais, comme si c'était son rôle de former des gens en anglais. C'est le rôle de la Molson School, ça. C'est pas le rôle de HEC.
Ouais. Ben écoute, ça va être un bon débat. On va demander à Joseph Facal s'il s'est fait demander de donner ses cours en anglais.
Exact.
C'est bon, ça. Je l'ai, Joseph. Tantôt, je lui demanderai. Écoutez, c'est le foutu bordel pour le trafic, la circulation à Montréal, puis ça va être encore pire.
Chaos total.
Chaos total ce week-end aussi. Et Philippe-Vincent Foisy parlait à un porte-parole du ministère des Transports ce matin. Il disait c'est le chaos. Et Jean-François, le porte-parole, a répondu ça pourrait être pire.
ça pourrait toujours être pire. On aurait dû nous faire des éloges. C'est extraordinaire.
Je veux que ça devienne la devise du Québec. Ça pourrait être pire.
Oui. C'est bon. Moi, j'avais c'est proposé parfait. Comme slogan les moins pires. c'est vrai, tout le monde est mauvais, mais nous, on est les moins pires. On s'assume.
Mais comment vous expliquez ça, qu'il y a tant de travaux à faire à Montréal en même temps? C'est parce que soit on n'en a pas fait pendant tellement longtemps qu'on doit tous les faire en même temps, ou soit qu'on utilise des matériaux tellement cheap pour sauver de l'argent qu'on doit refaire ces travaux-là aux deux ans.
C'est quand c'est du patchage par-dessus du rafistolage, ça a tendance à faire des nids de poule et avoir besoin d'être rafistolé. Mais tu sais, tu connais les X-Men, tu sais, les super-héros et tout ça. Moi, je vais inventer un terme. Je vais les appeler les ramen. Tu sais ce que c'est un ramen?
Oui.
C'est un mets coréen, un bol de nouilles. Parce que les gens qui sont responsables de notre ministère des Transports, c'est un bol de nouilles. En passant, la ministre qui a gagné hier le prix de l'année, Eric Kerr, pour avoir dit en fin de semaine, appelez le 511, gang de cave de Montréal. Elle, vous savez qu'elle s'est ravisée avant la fin de la journée hier. Elle était obligée de faire un Bernard de Rainville d'elle et aller dire, en fait, c'était pas ma meilleure réponse. Excusez-moi, je vais étudier qu'est-ce qui s'est passé à Montréal. Mais ce qui s'est passé à Montréal, c'est que ton ramen, là, ton bol de nouilles, pour le début de l'univers, c'est à Sainte-Foy, la fin de l'univers, c'est à Charlebourg. Eux autres, là, eux, ils s'en sacrent de Montréal, même s'il y a 4 millions de personnes, ils s'en sacrent de foutre le bordel total à Montréal. Ça les dérange pas parce que eux, ils vont être à leur chalet au lac Saint-Joseph en fin de semaine.
Jean-François, ça fait longtemps qu'il y a des lacunes au ministère des Transports. Souviens-toi le cafouillage de l'autoroute 13 lors de la fameuse tempête de neige. Là, c'était aussi n'importe quoi. C'était géré n'importe comment, Jean-François.
J'ai rien à ajouter d'intelligent là-dessus, ça fait que je vais vous suggérer de lire le livre de David Goudreau, Ta mort à moi. Il y a un personnage là-dedans qui, son fun, c'est de prendre sa voiture pour aller créer des embouteillages et c'est elle qui est responsable de l'embouteillage de l'A13 dans le livre de Goudreau. Elle fait ça pour le fun. Et c'est tellement une belle idée. Alors, si on pouvait trouver cette personne, on réglerait notre question.
Faut pas oublier Potter à l'Université McGill qui nous a sorti une bonne après ça disant que c'était la faute des Québécois qui contribuent pas aux œuvres de charité, qui s'en sacrent les uns pour les autres. Et il était responsable de l'Institut, qu'ils appellent l'Institut de McGill pour l'étude du Canada. Alors,
oui, c'est ça. C'était parce qu'on s'entraidait pas, qu'on était tous sur la même autoroute pendant une tempête de neige. C'est ça.
Pour faire exprès.
Et en terminant rapidement, plus de 30 000 profs non qualifiés dans nos écoles, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ou alors on leur offre une formation raccourcie.
Il faut que tu get with the picture, OK? Il faut comprendre les choses dans la vie. Il y a un métier pour lequel ça prend aucune exigence, aucune connaissance, aucun diplôme, c'est le métier de... de chroniqueur et de député. Hein, il n'y a pas de diplôme pour être député. Et à plus forte raison, il n'y a pas de diplôme pour être ministre. Alors, pourquoi c'est faire? Bernard Drinville et les autres vont dire, ben écoute, c'est un problème qu'on a 30 000 personnes non qualifiées en train d'enseigner à nos enfants. Ils doivent regarder ça et dire, de toute façon, ils ne sauront jamais écrire le français, c'est pas grave, et ils vont recevoir une très mauvaise instruction, c'est pas grave. Écoute, c'est le bordel, c'est une honte.
C'est incroyable.
Au Canada, partout aux États-Unis, ça te prend, tu dois être certifié, tu dois avoir un cours, mais on dirait que tout ce qui est métier, tout ce qui est profession, je m'excuse de faire un lien qui a par rapport à première vue, mais pense aux examens des infirmières. Tu as suivi tout ton cours, tu es parfaitement qualifié, le cours a été certifié par le gouvernement et validé. Et là, tout d'un coup, un examen de finition qui, où 90% réussissait auparavant, tout d'un coup, on est en train de couler la majorité parce que l'ordre veut imposer, ça fait partie de leur négo pour avoir ça à l'université. Moi, là, quand je vois ça, je deviens vraiment impatient, puis j'ai été président de l'Office des professions pendant 6 ans. Mais ce qui se passe avec les profs, c'est exactement l'inverse, c'est bof, c'est pas si grave
ben
que
c'est
ça.
C'est ça, Jean-Jean.
Si c'est notre bol de nouilles qui est responsable de ça, c'est scandaleux.
Jean-François,
tu... les épaules, il dit c'est pas grave.
Jean-François, tu vas te faire opérer juste avant qu'on t'endorme. On dit, écoute, le gars qui va t'opérer n'est pas qualifié, il a pas vraiment son diplôme, mais c'est une bonne personne, il est correct. Là,
Oui. Alors, ce qui est incroyable dans ce que dit la VG hier, c'est que on n'a aucune idée pour la majorité de ces gens-là de quelle est leur qualification. On sait qu'ils n'ont pas le bon papier pour enseigner, ça c'est certain. Maintenant, un certain nombre d'entre eux sont hyper qualifiés. Il y en avait une à Radio-Canada hier qui disait, écoutez, moi j'ai travaillé pendant 15 ans sur la pédagogie du français et j'enseigne le français depuis 5 ans donc dans les écoles, mais on dit que je suis pas qualifié. Donc, il y en a qui ont des qualifications non reconnues, puis il y en a que, ben, on le sait pas. Le scandale, c'est, on aimerait ça le savoir. Est-ce qu'il en reste juste 5 000 qui ont été pris sur la rue puis qui n'avaient pas de qualification?
Très bon,
ou est-ce qu'il y en
bon
a 15 000?
Jean-François. Puis dans le rapport d'hier, il y a autre chose aussi, parce que le vérificateur général, fonction essentielle dans notre système de gouvernement, et le rapport de la vérificatrice hier, elle fait une énumération de toutes les choses qu'on ne sait pas au ministère de l'Éducation. On n'a aucune idée de rien. Oui.
Mais ça, au moins, le projet de loi de Drinville vise à savoir ça. Donc, on va voir si dans l'année, on va finir par avoir des chiffres.
Merci beaucoup à vous deux.
Salut.
Bon week-end et bon vendredi.
Oui,
merci.
Bon vendredi.
Salut.
Salut. Bye. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité vous abonner à son excellent balado, il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur laboîtealisée.com.